Vous écoutez France Culture.
Depuis 2001, le site de Coran dans le Puy-de-Dôme est l'objet de recherches les plus novatrices sur la période gauloise, chaque campagne de fouilles livrant son lot de découvertes. Il faut dire que Coran n'est pas n'importe quel site, mais une des capitales d'un des peuples les plus puissants de Gaule, les Arvernes, et dont la mémoire de quelques chefs, Luherne ou Vercingétorix, a traversé les millénaires. Ce vaste programme de recherche est dirigé par un jeune chercheur qui fouille, émet des hypothèses, crée des modèles, publie vite et bien dans les meilleures revues. Mathieu Pou, puisqu'il s'agit de vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le plus jeune professeur d'archéologie antique de France et enseigné à Lyon 2. Mathieu Pou, des villes gauloises, cela surprend probablement de petites villes au fond des bois?
Alors ça m'étonnerait beaucoup, puisque pour l'époque dont on parle, le 2e et 1er siècle avant notre ère, des bois, il n'y en a plus beaucoup en territoire arverne comme ailleurs en Gaule. En fait, les recherches menées sur l'environnement de cette époque ont montré que de la forêt, il n'y en a pratiquement plus. La couverte végétale de la fin de l'âge du fer, de la fin de l'époque gauloise, semble presque inférieure à celle d'aujourd'hui. Ça, c'est pour rebondir sur les propos de l'invité qui m'a précédé sur ce siège. Les problèmes écologiques ne datent pas d'hier. Les villes qu'on imaginait au fond des bois, c'était des petits villages de huttes, de torchis. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on raisonnait à une fausse échelle. Les villes, c'est beaucoup plus vaste que ça, ça couvre des hectares, des dizaines d'hectares même. Et la ville de Coran, comme d'autres villes celtiques de cette époque, n'a rien à voir avec le petit village d'Astérix.
C'est aussi la référence à César autour de la Gaule chevelue, donc la Gaule boisée, probablement.
Oui, un malentendu, Gaule chevelue qui désigne aussi bien les habitants de la Gaule, réputés hirsutes jusque dans les derniers films grand public qu'on peut trouver sur nos écrans, qu'un territoire qui est évidemment plus boisé que la Gaule dite méditerranéenne et les bords de la Méditerranée où la forêt a disparu depuis longtemps.
Les Arvernes sont un des peuples extrêmement importants dans l'histoire des Gaules. Quand les voit-on émerger, quelle fut leur histoire ?
Alors, hormis quelques apparitions très sporadiques, quelques péripéties au 3e siècle avant notre ère, par exemple au moment du passage d'Hannibal de ce côté-ci des Alpes, les Arvernes ne font vraiment leur apparition qu'à la fin du 2e siècle avant notre ère, au moment où Rome s'implante, avec ses alliés, Marseille, dans la Gaule dite transalpine, qui deviendra plus tard la province de Gaule-Narbonnaise. Et les Arvernes se retrouvent avec leurs voisins allobroges de la vallée du Rhône, en première ligne, en quelque sorte, au contact direct d'une culture avec laquelle elle a déjà eu maille à partir, hein, les fameuses invasions celtiques du 4e et du 3e siècle avant notre ère. Mais disons, les Arvernes sont au premier plan. Et c'est à partir de là qu'on voit apparaître dans les sources écrites des auteurs grecs et latins des noms prestigieux, des noms de rois prestigieux, comme Luherne, par exemple, son fils Bituite, et d'autres, qui sont présentés comme des chefs barbares, qui organisent des grands banquets, de grandes fêtes, qui distribuent des monnaies à la volée à des populations à des fins bassement électorales. Et c'est à partir de là que les Arvernes deviennent, on dirait, un poids lourd géostratégique, l'un des peuples avec lesquels Rome aura maille à partir en priorité.
Et de quoi tirent-ils leur importance ? Alors, quelques richesses locales ?
Les richesses locales ne sont pas évidentes pour ce qui est des Arvernes, dont le territoire couvre grosso modo les limites de l'Auvergne actuelle. Alors, évidemment, des ressources minérales, minières, mais surtout agricoles. L'importance du territoire Arverne, c'est surtout qu'il tient lieu, qu'il sert d'interface entre cette Gaule méditerranéenne, hellénisée et romanisée depuis de longues dates, et le reste de la Gaule du centre, la Gaule de l'Est. Et c'est cette situation de passerelle commerciale, passerelle économique, dont les Arvernes seront tirés profit au 1er et au 2e siècle avant notre ère.
Ce sera un des peuples les plus puissants de Gaule, peut-être avec deux ou trois autres, notamment les Éduins, les Bélovaques aussi, toute cette Gaule belgique très puissante, très différente aussi.
Oui, tout à fait. Alors, les Arvernes, un peuple parmi d'autres, Éduins, Biturige, Allobroges, dont le territoire couvre quand même une étendue très importante, avec des peuples clients, des petits peuples dont on ne sait pas trop s'ils sont vraiment, s'ils appartiennent au territoire arverne ou s'il s'agit de peuples satellites, mais incontestablement un poids lourd politique, militaire, avec, contre lequel Rome devra batailler pour pouvoir s'implanter durablement en Transalpine.
Je parlais de la mémoire de quelques chefs, Luherne ou Vercingétorix, mémoire qui avait traversé les millénaires. Donc, bien sûr, tout le monde connaît Vercingétorix. Luherne est bien plus mystérieux, peut-être aussi bien plus ancien.
Oui, alors sur Luherne, on sait très peu de choses, puisqu'il s'agit de quelques lignes qui ont survécu de l'œuvre du grand Posidonios d'Apamée, qui est venu en Gaule autour de 100 avant Jésus-Christ. On ne sait pas vraiment jusqu'où, mais il nous rapporte donc les frasques de ce roi Arverne, dont on sait qu'il existait, puisqu'il est présenté comme le père d'un personnage qui est attesté par de nombreuses sources postérieures, Bituite. Et c'est là qu'on a cette fameuse description d'un roi Arverne qui parcourt la campagne, jetant des pièces d'or et d'argent aux Celtes qui voulaient bien le suivre, organisant d'immenses festins électoraux pour des populations qui se réunissaient dans des grands enclos à banquets pendant des jours. Mais c'est tout ce qu'on sait de lui.
Trois villes, trois oppida, pour reprendre le nom latin, sont potentiellement la capitale de ce peuple arverne. Les archéologues peuvent-ils les départager? Peuvent-ils aussi se départager?
Alors heureusement, l'archéologie actuelle n'est plus un monde de châteaux forts, de fiefs qu'il s'agit de défendre, de clochers. Les archéologues en Auvergne travaillent ensemble, parallèlement, simultanément sur trois sites, et ils se sont aperçus que les choses étaient effectivement très complexes, puisqu'on a affaire à trois sites occupés de manière importante au 1er siècle avant notre ère. Et l'on sait, ça c'est quelque chose, un point sur lequel on est à peu près tous unanimes, que ces trois sites sont occupés simultanément, coexistent au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quand César arrive en territoire arverne, au moment de la révolte de Vercingétorix, il y a trois villes qui coexistent à quelques kilomètres de distance, c'est-à-dire à 5 ou 6 kilomètres de distance seulement. C'est une configuration qui est tout à fait illogique, anormale à l'échelle du monde celtique, unique, on peut le dire, et ça pose problème. Il faut trouver un modèle d'interprétation, et ces modèles d'interprétation, en revanche, divergent. Pour ma part, je pense que ces trois villes coexistent au sein d'un même ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'il faut repenser la notion de capitale, qui était certainement beaucoup plus éclatée dans le monde celtique que dans le monde romain, par exemple, à la même époque, ou dans le monde grec. Et je pense que ces trois sites sont, en quelque sorte, des pôles complémentaires d'une grande ville qui aurait couvert une superficie beaucoup trop grande pour avoir été bâti, occupé intégralement, mais ce sont des choses qu'on commence à retrouver un petit peu ailleurs dans le monde celtique, c'est-à-dire l'idée d'une capitale, non pas avec un seul noyau, mais plusieurs noyaux qui se répartiraient dans le paysage à plusieurs kilomètres de distance.
Donc ces trois villes n'auraient pas une relation chronologique et successive, mais auraient fonctionné en même temps. Ces trois villes, bien sûr, c'est Coran que vous fouillez, c'est aussi ce qu'on appelle Gergovie, et puis une troisième, bien moins connue, Gondole.
Oui, on pourrait même ajouter le grand site d'Olna Gandaya, qui a été fouillé par l'Institut national de recherche archéologique préventive, entre autres au cours des années, qui est un immense complexe urbain qui semble exister déjà dès le 4e, 3e siècle avant notre ère, dont l'apogée se situe à la fin du 2e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'émerge une seconde ville sur le plateau du Puy de Coran. L'idée d'une succession de plusieurs villes, c'est une idée qui est abandonnée aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, puisque à Coran, on a signé une durée de vie très courte, il y a encore quelques années, de 20 à 25 ans seulement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une ville qui a été occupée pendant près d'un siècle avant la conquête romaine, et donc forcément, cette période d'occupation est contemporaine de celle d'autres sites situés à proximité. Alors, il y a évidemment le grand site de la bataille de Gergovie, dont la localisation ne fait absolument plus débat aujourd'hui, il faut bien le dire, au sein de la communauté archéologique historique. Vous ne trouverez jamais pas un seul historien ou archéologue sérieux qui pourra vous prétendre le contraire. Peut-être une ville à cet emplacement qui n'a pas encore été retrouvée par les fouilles. Et puis, il y a ce site extraordinaire de Gondole, là aussi, qui a défrayé la chronique il y a quelques années avec la découverte de ces fameuses fosses aux cavaliers à l'avant de l'oppidum.
Huit cavaliers enterrés avec leurs chevaux.
Voilà, une découverte tout à fait extraordinaire de l'INRAP, là encore. Et cet oppidum est peut-être aujourd'hui le mieux connu des trois, puisque les recherches qu'a mené Yann de Berge sur ce site permettent d'identifier les quartiers artisanaux, les quartiers résidentiels, les quartiers peut-être dévolus aux pratiques culturelles et funéraires. Donc une concentration tout à fait inédite. Il y a encore d'autres sites en avant de ces oppidas, comme le site du Bay au pied du site de Coran, qui semble totaliser presque 20 hectares au vu des prospections. Ça fait beaucoup de monde dans un mouchoir de poche, hein, sur un territoire très restreint.
Donc le modèle tripartite que vous proposez aujourd'hui pourrait être de fait bien plus complexe.
Oui, c'est sans doute plus complexe, d'autant plus que la capitale Arverne est connue par un texte de Strabon qui donne comme appellation Nemosos. Nemosos, qu'on a sans doute à tort rattaché au nom futur de la ville romaine d'Augusto Nemetum. En fait, ça n'a peut-être rien à voir. Nemosos, c'est vraisemblablement le nom d'une grande divinité celtique. Et cette Nemosos, cette capitale, on peine vraiment à l'identifier dans ce bassin de Clermont-Ferrand, puisqu'il y a au moins 5, peut-être même 10 candidats potentiels. Et plutôt que de continuer à les opposer au fil des années à venir, moi je préfère les intégrer dans un seul modèle. Alors il ne faut pas être trop simpliste, on n'est pas dans le modèle du Mésilien, d'une capitale militaire, enfin d'un pôle militaire, d'un pôle économique, d'un pôle religieux, politique, c'est certainement plus complexe que ça. Il y a à Gondole à la fois un rempart et de l'artisanat, à Coran peut-être un rempart, un sanctuaire, une ville, à Gergovie une bataille, donc assurément une dimension militaire, mais les fouilles doivent continuer sur les 3 sites, et j'insiste sur ce point, pour qu'on puisse un jour en tirer une explication valable.
Mathieu Pou, vous avez entrepris maintes campagnes de fouilles sur Coran. Vous avez notamment découvert un vaste bâtiment de plus de 1000 mètres carrés. De quoi s'agit-il ?
Alors ça, c'est une découverte tout à fait étonnante qui a été faite en plusieurs tronçons entre 2005 et 2008. C'est une grande place bordée de portiques, une grande place aménagée, entièrement terrassée, de main d'homme, aménagée au centre avec une chaussée de cailloutis, bien damée, presque une place moderne, un macadam moderne, et bordée de portiques, de bâtiments, de grandes halles qui hébergeaient essentiellement des ateliers et des boutiques. Des ateliers dédiés à l'artisanat, plusieurs ateliers de métallurgie où on finalisait des bijoux, par exemple des parures, des bracelets, des fibules, des ateliers de boucherie qui ont été identifiés, au moins 2 ateliers de boucherie, et d'autres choses. Donc distribué autour de cette grande place, et tout cela évidemment rappelle très fortement le modèle des marchés romains, c'est quelque chose qui est pour l'instant pratiquement inédit dans le monde celtique, ce qu'on appellera peut-être plus tard à Rome des macellas, de grands marchés, donc dédiés notamment à la boucherie. Là où se faisait à la fois la préparation des produits, mais aussi leur vente. Et dans ce complexe ont été retrouvés des milliers et des milliers d'objets qui témoignent de ces activités artisanales, de boucherie, et puis également un très grand nombre de monnaies, de jetons de compte, qui démontrent qu'on y a effectué des transactions commerciales.
Donc Coran était une véritable place marchande aussi.
Oui, alors là, il n'a pas fallu attendre les fouilles pour s'en convaincre, puisque quand vous parcourez le plateau de Coran à l'époque des labours, en ce moment même, la terre est presque orange de par la présence d'innombrables, de millions, on peut le dire, de tessons d'amphores à vin importés d'Italie qui ont été montés sur le plateau. Il faut préciser que le site de Coran, le plateau de Coran, se situe en surplomb de l'Allier, qui est un cours d'eau qui aujourd'hui n'apparaît pas comme majeur, mais qui était important dans l'Antiquité, puisqu'il permettait précisément de relier la Gaule centrale à la Gaule méditerranéenne, et par là transitaient certainement des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers d'amphores, et le site de Coran a visiblement pris sa part au passage.
Coran est surtout connu pour son sanctuaire que vous avez fouillé. Qui avait accès à ce sanctuaire et à quelle occasion ?
Alors au départ, comme pour tous les sanctuaires de Gaule du Nord, jusqu'à présent ils étaient surtout connus au nord de la Seine, c'est une population assez restreinte d'aristocrates qui pratiquent des cultes à caractère guerrier, valorisation des têtes coupées, de l'armement, du butin pris à l'ennemi, et ça ce sont des choses qu'on retrouve pour les niveaux les plus anciens du sanctuaire, datés des années 150-140 avant Jésus-Christ. À partir de la fin du IIe siècle, vers 100 avant Jésus-Christ, on assiste à un élargissement de ces pratiques, et on a l'impression qu'à partir de là, une part beaucoup plus grande de la population est conviée, sans doute toujours sous la présidence de ces aristocrates, ces mêmes aristocrates chefs guerriers, mais elle est invitée à se rendre sur le sanctuaire pour y effectuer des pratiques d'un tout autre ordre. Les traces de ces pratiques, alors c'est à la fois du dépôt de petits objets de parure, on a des centaines, des milliers même de monnaies, de petits anneaux, de petits jetons déposés en offrande à l'entrée du sanctuaire, mais surtout la principale activité qui commence à émerger à cette époque-là, c'est l'activité des banquets précisément. De grands repas religieux, évidemment, puisqu'on est dans l'enceinte d'un sanctuaire, qui se déroule sur une sorte de cour centrale bordée de portiques, et qui ont laissé des traces sous forme de tonnes, je dis bien de tonnes, de céramique, notamment de ces amphores à vin importés d'Italie en très grand nombre, mais aussi d'ossements animaux, pour l'essentiel du petit bétail domestique, des moutons en première ligne, mais également des porcs, un petit peu de bœuf. Et ça, ce sont des traces de ces grands banquets qu'on connaissait de par les textes, mais qui commencent à émerger grâce à l'archéologie.
C'est vous qui avez notamment mis en évidence sur le plan archéologique ces banquets dans la Gaule celtique, en retrouvant toutes ces amphores et toutes ces viandes. Cela fait bien sûr référence aux banquets grecs, voire aux banquets romains.
Oui, alors je me suis occupé des banquets côté vin, côté boisson, si j'ose dire. Mon collègue Patrice Méniel au CNRS, lui, s'est intéressé aux banquets avant moi du point de vue des ossements animaux, de la faune. Et ce qui ressort de nos recherches parallèles, c'est que ces banquets gaulois, bon, premièrement, n'ont rien à voir avec les bombances dessinées à la fin de chaque album d'Astérix. Il s'agit de cérémonies, de fêtes un petit peu plus sérieuses, en tout cas solennelles, politiques, religieuses, etc. Et que d'autre part, elles diffèrent, ces banquets diffèrent assez sensiblement des formes de banquets connues à la même époque dans le monde romain, dans le monde gréco-romain. Ce qu'on appelle le symposium, qui est la fête des buveurs, où l'on ne mange pas de viande, on ne mange plus de viande, c'était le cas à une époque beaucoup plus reculée. Et il semble que les Gaulois ont conservé, développé une forme de banquet, une forme de festivité originale, qu'on retrouve donc sur le site de Coran de manière tout à fait évidente au 1er siècle avant notre ère.
Les portiques du sanctuaire étaient monumentaux. À l'intérieur, un porche muni d'une tour de 10 mètres de haut. C'est au cœur de ce sanctuaire que les sacrifices étaient pratiqués ?
Alors oui, entendons par sacrifice, non pas des pratiques morbides de sacrifices humains ou de choses comme cela, qui ont été pratiquement inventées toutes pièces par les textes, ou en tout cas fortement exagérées. Ce qu'on trouve, ce sont des traces de sacrifices animaux, le bétail consommé dans les banquets, les moutons, les porcs, mais aussi d'autres espèces un petit peu plus rares, un petit peu curieuses. La tour porche que vous décrivez, c'est en fait l'entrée. C'est l'entrée du sanctuaire, elle surmonte donc l'entrée principale du sanctuaire, et comme sur tous les sanctuaires gaulois, c'est un petit peu la vitrine du lieu de culte. C'est l'emplacement où l'on expose les trophées dans les sanctuaires de Gaule du Nord, les trophées pris à l'ennemi, et en l'occurrence, ce qu'on y a retrouvé à Coran, c'est tout à fait surprenant, c'est une série de crânes animaux, des animaux qui n'apparaissent jamais dans les sanctuaires gaulois, des crânes de carnassiers, de carnivores, un grand nombre de chiens, de renards, mais aussi de loups, 4 ou 5 loups, un chat sauvage et un hibou grand-duc. Ne me demandez pas ce qu'il vient faire là. Mais ce qui est curieux, c'est le choix de ces animaux comme emblème, en quelque sorte, comme motif d'entrée du sanctuaire. Et c'est là que le retour au texte est intéressant, puisque si l'on revient à cette fameuse figure de luerne, luerne en gaulois, en langue celtique, luperno, luperna, veut dire précisément le chien, le loup ou le renard, on ne sait pas. Là, c'est un petit peu ambigu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on possède en Auvergne d'autres représentations figurées qui présentent des aristocrates à Auvergne en compagnie de carnassiers. Un coin monétaire a été retrouvé dans le sanctuaire qui porte le nom d'un chef gaulois, Atkanaonos, qui veut dire proche de ses meutes ou jeune loup. Il y a quelque chose autour de ces carnassiers, il y a un lien intime entre les grandes familles régnantes à Auvergne du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ et une sorte d'animal totémique qui peut être le loup, le renard, on ne sait pas. Et ce qui est encore plus étonnant, ce qui est un petit peu la preuve par l'image, c'est que sur le sanctuaire ont été frappées des centaines de monnaies, je dis bien des centaines de petites monnaies, qui représentent justement un petit carnassier, chien, loup ou renard, juché sur une roue de char.
Vous avez aussi retrouvé récemment une sorte de plan d'architecte sur un fragment de pierre. De quoi s'agit-il ?
Alors, un plan, c'est beaucoup dire. Il s'agit d'une esquisse, d'un croquis qui a été gravé sur un caillou. Un caillou qui n'a pas été trouvé n'importe où. C'est près de l'entrée, dans des remblais de destruction qui précèdent la reconstruction du sanctuaire à l'époque romaine. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce plan, n'en est pas vraiment un. C'est à la fois une représentation en élévation du sanctuaire et en plan, effectivement, qui est assez difficile à lire, mais qui permet de reconnaître les grands espaces du sanctuaire. Ça, c'est quelque chose qui semblait complètement inconnu en Gaule, avant comme après la conquête, mais en fait, qui possède des correspondances dans le monde grec ou romain, un petit peu plus au sud.
On avait déjà une représentation, je crois, d'un sanctuaire sur l'oppidum du Titelberg au Luxembourg, quelque chose là aussi d'unique.
Oui, une sorte de petite maquette en pierre qui représente, alors là les avis ne sont pas unanimes, soit le grand temple qui a été fouillé sur l'oppidum du Titelberg, qui est le pendant de celui de Coran et qui a été reconstruit lui aussi à l'époque romaine sous une forme encore plus monumentale, mais d'autres y voient une simple maquette de villa.
Comment s'organise la ville ? A-t-on d'ailleurs un plan d'urbanisme, d'architecte ?
Oui, alors ce qui est certain, c'est que la ville ne s'est pas constituée de manière anarchique, comme on peut imaginer que s'est formé le village d'Astérix, avec des maisons qui s'agglutinent les unes aux autres. Il y a un véritable schéma d'urbanisme. Alors, le mot semble exagéré, mais chaque habitat s'inscrit dans une parcelle précise qui est délimitée par des palissades, des petites clôtures, et quand on établit le plan de ces palissades, on se rend compte qu'elles sont parfaitement alignées sur la façade du sanctuaire, la façade de la grande place artisanale et commerciale, le grand bâtiment artisanal dont je vous parlais tout à l'heure, qui occupe deux îlots, très précisément, îlots, le mot est lâché, on a bien affaire à une sorte de découpage initial de la ville, avec des parcelles attribuées à des particuliers, d'autres attribuées à des espaces publics, qui ressemblent très fortement au découpage en insulae, connu dans le monde romain, qui elle-même, ce mode de découpage, s'inspire du fameux plan d'Hippodamée de Milet, connue en Grèce à une époque encore plus ancienne.
Mathieu Pou, dans un angle de la place, vous avez découvert un étonnant bâtiment. De quoi s'agit-il ?
Alors, je vous ai dit que sur cette place, cette grande place, on trouvait des métallurgistes, des bouchers. Qu'est-ce qu'il pouvait manquer ? Eh bien, la campagne de fouilles de 2008 nous a donné la réponse. C'est une découverte assez invraisemblable, assez improbable. Une grande cave, comme on en connaît dans le monde celtique, sous une forme plus réduite, une grande cave taillée dans le rocher, qui mesure 18 mètres de long, 18 mètres 30, pour être plus précis, c'est sans équivalent. Et une cave qui était comblée intégralement à 95% de tessons d'amphore à vin. Ça fait un volume de 80 mètres cubes pour un poids d'amphore qui avoisine les 5,6 tonnes. Donc c'est tout à fait considérable. Cette cave était surmontée d'un grand bâtiment, une sorte de grande halle sur poteau, dont la reconstruction pose problème. Hein. C'est pas facile de restituer tout ça à partir de trous de poteau. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que les amphores, certaines étaient encore en place au fond de la cave, entières, presque en position fonctionnelle, même si elles, pour une part, elles ont été réutilisées. Et il semblerait que le vin était non seulement entreposé dans cette cave, donc c'est une sorte de grand entrepôt à amphores, mais également consommé sur place, puisque certaines amphores ont été sabrées à la meilleure gauloise, ce sont des choses qu'on retrouve sur d'autres sites de cette époque, et également vendues, puisqu'on y retrouve un grand nombre de monnaies et de jetons de compte qui étaient concentrés à l'avant du bâtiment. Tout cela, rapporté à quelques comparaisons connues dans le monde romain ou gaulois, nous a incité à y voir un bâtiment de type taverne qui avait sa place dans l'angle de ce grand complexe artisanal, donc des boucheries d'un côté, des marchands de vin de l'autre. Le binôme auvergnat est très bien respecté.
Il y a quelque temps, vous disiez à propos d'une riche maison de Coran que si vous étiez archéologue anglo-américain, vous n'hésiteriez pas à y voir la demeure de Vercingétorix ou de son père. En France, ce genre d'hypothèse est plus difficilement acceptable ?
Que dans le domaine anglo-saxon, alors évidemment on trouve dans la presse anglo-saxonne un certain goût pour le spectaculaire dont usent certains scientifiques, on en reparlera peut-être. En l'occurrence, c'est le site de Coran qui est un site spectaculaire, puisque dans les bâtiments qui voisinent le sanctuaire, ce sont des bâtiments d'habitat tout à fait importants, construits de manière assez massive, on y retrouve chaque année, chaque campagne, des choses qu'on ne retrouve jamais sur les sites gaulois, à savoir des parures en métaux précieux, des parures en or et en argent, des choses qu'on ne retrouve même pas dans les tombes les plus riches, documenté sur le territoire arverne, en Auvergne, mais plus généralement dans le monde gaulois. Donc on a affaire visiblement à des aristocrates d'un rang très élevé. Ces bijoux, il faut le préciser, ils n'ont pas été faits sur place, ni même en territoire arverne, ils ont été importés d'Italie. Ce sont des pièces uniques à l'échelle du territoire, à l'échelle de la France. On dispose de 3 exemplaires aujourd'hui. Des fibules faites en Italie du Nord, relié par une petite chaînette, et un petit pendentif en forme de lunule, vraisemblablement fabriqué aux environs de Tarente, en Italie du Sud. Donc des bijoux d'un luxe inouï pour l'époque, qui ont été portés, importés et portés par les populations qui habitaient autour du sanctuaire. Alors après, on peut se permettre de rêver. On a affaire à des aristocrates de rang élevé, sur un site qui est la probable capitale du peuple arverne vers 100 avant Jésus-Christ. Donc effectivement, on peut s'amuser à coller des noms sur ces personnages inconnus. Vercingétorix provenait d'une famille illustre qui a vécu en Auvergne à ce moment-là, qui était certainement très proche du pouvoir, des sanctuaires, des espaces publics. On peut tout imaginer et rien prouver, évidemment. Pour cela, il faudra une inscription. Elle n'a pas encore été découverte.
Mathieu Pou, vous n'avez pas fouillé cet été. Que se passe-t-il ?
Alors, les fouilles du sanctuaire de l'oppidum de Coran s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'archéologie programmée, qui est soumise à des autorisations annuelles ou pluriannuelles et à examen des rapports de fouilles par des commissions, le ministère de la Culture, qui décide ou non de renouveler l'autorisation de fouilles. Alors, quelques petits couacs cette année dans le renouvellement de nos fouilles. Nous avons demandé pour la seconde année consécutive de pouvoir inscrire nos recherches dans une logique pluriannuelle avec des fouilles qui s'étaleraient sur 3 ans. Des rapports qu'il nous faut rédiger dans l'urgence, bien souvent. Les fouilles se terminent en septembre et le rapport doit être remis pour décembre. Et sur la base d'imprécisions, d'erreurs, d'inexactitudes relevées dans le rapport, en nombre pas vraiment conséquent, il a été décidé de nous accorder des vacances, une petite pause pour cette année, avant, et ça nous l'espérons très fortement, une reprise des fouilles en 2010. Ce que nous avons fait, j'en arrive aujourd'hui, j'ai pris le train de l'Auvergne à Paris ce matin, et ce travail était accompli, et j'espère bien qu'on pourra l'année prochaine repartir sur un bon pied.
L'archéologie est une discipline scientifique régie par des lois, essentiellement patrimoniales. C'est aussi une communauté avec ses courants, ses chapelles, ses codes. N'avez-vous pas transgressé ces codes au travers d'une vaste pétition signée par des chercheurs professeurs du Collège de France, du CNRS, de l'EPHE ou d'université. N'avez-vous pas été surtout trop exposé au travers de grands papiers parus dans la presse, notamment l'un sous la plume de Stéphane Foucard dans Le Monde ?
Alors, évidemment, jouer avec les médias, c'est jouer avec le feu, on le sait. S'exposer, il faut s'exposer à tous les coups également. Moi, je pense que ces fouilles ont fait parler d'elles dans les médias, certes, mais également dans des colloques scientifiques, et que le travail qui devait être fait a été fait. Ensuite, sur la méthode, la réaction qui a été la nôtre au moment où les fouilles n'ont pas été reconduites, on peut juger qu'elle était maladroite, je pense assurément. Je pense qu'elle était légitime. Et les chercheurs, l'énorme majorité de chercheurs qui a signé cette pétition le reconnaît également, le pense également. Alors aujourd'hui, moi je pense que les choses se sont apaisées. Nous avons reçu des assurances, des garanties de la part de l'État via le préfet de région pour que les fouilles continuent dans les années à venir. Je pense qu'il faut tirer un trait sur cette regrettable affaire et regarder un petit peu vers l'avenir.
L'archéologie n'est-elle pas une discipline qui se prendrait trop au sérieux ?
Alors, franchement, qui pourrait prendre au sérieux des chercheurs qui vont gratter la terre à la recherche de choses qui n'existent plus, ne rapportent pas d'argent, n'en rapporteront sans doute jamais. Plus sérieusement, l'archéologie, c'est une discipline scientifique qui était complètement livrée à l'amateurisme il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années. Aujourd'hui, c'est une discipline professionnelle. Il y a 2000 à 3000 archéologues qui travaillent en France en tant que professionnels au sein de l'INRAP ou d'autres opérateurs d'archéologie préventive. Et nous avons beaucoup bénéficié de cette évolution de l'archéologie en termes de méthode, notamment. Ce sont des gens qui nous ont appris à fouiller de manière différente. À l'époque, on fouillait il y a encore 20 ou 30 ans des tout petits espaces. Aujourd'hui, on fouille de grandes surfaces qui nous permettent de mieux comprendre et d'avancer plus vite. Alors, est-ce qu'il y a lieu pour autant de se prendre au sérieux ? Je ne pense pas, parce que notre discipline est là avant tout pour faire rêver. Moi, je pense que sa finalité ultime, c'est de raconter des histoires. On a le droit de raconter des histoires si on le fait de bonne foi et si on les fonde sur un argumentaire scientifique sérieux, développé. Et à partir de là, on peut rêver. Si les hypothèses sont fausses, on tirera un trait très rapidement dessus. On n'aura même pas besoin de le faire parce qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes. Si elles sont avérées, eh bien, des données viendront abonder dans ce sens. Mais je pense que, dans tous les cas, la liberté de parole est essentielle parce que sans le rêve de l'archéologue et le rêve qu'il cherche à transmettre au public, notre discipline n'a strictement aucun sens, aucune utilité.
Et vous avez profité de cet été pour ouvrir une superbe villa romaine. En quelques mots, en 5 secondes, qu'avez-vous trouvé près de Lyon ?
Oui, alors ça, c'est une histoire dont nous reparlerons. Nous avons profité de nos vacances pour partir en fouille sur un autre site. C'est une villa d'assez grande taille, découverte dans l'Ouest lyonnais, qui est occupée très anciennement, dès l'époque gauloise, semble-t-il, et à l'époque de la fondation de Luc Dunhomme. Une villa qui a livré son lot de surprises, une belle mosaïque, une installation viticole datée du IIe siècle. Mais de tout cela, nous reparlerons peut-être une autre fois.
Bien, Mathieu Pou, à très bientôt. La semaine prochaine, le Salon Noir sera à Alger, avec un reportage au pied de la Casbah et la découverte d'une basilique paléochrétienne. Le Salon Noir était réalisé par Brigitte Alléo à la technique Alexandre Dang. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.com. Merci aussi de votre fidélité. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain à 14h. Vous pourrez retrouver la marche des sciences d'Aurélie Luneau, mais dans quelques instants à 15h, les mercredis du théâtre par Joël Gaillot.